Merci beaucoup. Merci à Pascal pour cet exposé passionnant. J'ai beaucoup appris. Bonjour à toutes et à tous. Et merci aux organisateurs d'avoir créé cet événement pour nous permettre d'évoluer dans nos réflexions. Alors, qui aurait cru que 200 ans après la naissance de Darwin, un musée de la création, fondé sur une approche littéraliste ou pseudo-littéraliste, en désaccord avec le consensus scientifique, attirerait des centaines de milliers de visiteurs. Il faut pourtant compter avec le succès du Creation Museum, inauguré en grande pompe à Petersburg, dans le Kentucky, le 28 mai 2007. Cet étonnant musée est emblématique du poids du créationnisme évangélique le plus extrême aux États-Unis, mais aussi emblématique du retentissement médiatique qu'il rencontre, y compris en France. Financé sur des fonds privés, venus principalement de certains cercles protestants, fondamentalistes et évangéliques, ce musée spectaculaire a rencontré un vrai public qui se presse pour admirer les explications au sujet de la jeunesse de la Terre et de la cohabitation entre les fils d'Adam et le tyrannosaure Rex. 500 000 visiteurs s'y sont rendus durant les 12 premiers mois d'ouverture de ce musée. Nombre de télévisions également, y compris des chaînes européennes et francophones, preuve de la fascination réelle exercée par ce débat créationniste. Mais que veut dire cette fascination ? Est-ce une fascination d'exotisme fondée sur l'énorme écart entre les passions évangéliques américaines et un rejet européen qui serait unanime ? Ou est-ce plutôt une fascination de proximité qui illustrerait dans le fond la séduction plus ou moins inavouée exercée par ce créationnisme auprès de certains ? Alors, les données d'enquête quantitative dont on dispose et qui ont été en particulier publiées il y a 2 ans de cela, données d'enquête européenne, font pencher, en tout cas pour la France, pour la première hypothèse, celle d'une fascination d'exotisme. La France est le pays le moins créationniste d'Europe, d'après ces données d'enquête. Ça ne nous surprendra peut-être pas forcément. Mais il n'est pas sûr qu'on puisse pour autant invalider totalement le postulat d'une forme de proximité, malgré tout, au moins partielle, entre le néo-créationnisme américain et certains milieux évangéliques, et notamment en France. Alors, un examen cursif très, très rapide et très schématique du terrain français, précisément, à partir de quelques exemples marquants, permettra d'évaluer une palette de sensibilités marquée à la fin du XIXe siècle par la curiosité et la prudence. Donc je commencerai par un premier coup de projecteur sur la fin du XIXe siècle français et rappeler tout d'abord que durant cette période, donc au moment de l'affirmation de la Troisième République en France, l'évangélisme constitue vraiment une minorité d'une minorité. Même en intégrant toute la sensibilité évangélique à l'œuvre au sein des églises réformées, qui sont alors divisées, et elles le resteront jusqu'en 1938, le protestantisme évangélique, au sens du fameux quadrilatère Bevington, hein, biblicisme, crucicentrisme, conversion et engagement, ne représente guère plus d'1% de la population française totale. Ça nous rappelle un petit peu les proportions, les ordres de grandeur. Autant dire que les auteurs capables d'intervenir dans le débat autour du darwinisme ne sont naturellement pas légion. Aussi peut-on saluer avec un intérêt particulier un ouvrage d'apologétique basé sur de très abondantes lectures scientifiques signées par un pasteur baptiste français du nom d'Aimé Cadeau. On aurait tort de faire de sa prose une prise de position représentative de tous les évangéliques français. Et d'ailleurs, on pourrait poser la question, peut-il exister une prise de position représentative de tous les évangéliques français ? La question est loin d'être simple. En revanche, dans la mesure où il s'agit d'un pasteur qui a exercé des fonctions nationales au sein de sa mouvance, en l'occurrence de la mouvance baptiste, un pasteur d'une véritable alacrité de plumes et d'une curiosité intellectuelle tout à fait emblématique de son siècle. On peut faire l'hypothèse qu'il représente en tout cas bien plus que lui-même et témoigne d'une sensibilité évangélique française partagée à l'époque entre curiosité et prudence face aux nouvelles découvertes scientifiques. Son ouvrage est publié en 1882. Il s'intitule « Entretien familier sur la foi évangélique et l'incrédulité ».« Entretien familier sur la foi évangélique et l'incrédulité ». Le pasteur Cadeau y confirme un intérêt scientifique d'autodidacte, passionné, éclairé, qui transparaît d'ailleurs aussi dans d'autres de ses textes, notamment un petit voyage en Italie qu'il a publié par ailleurs, et qui en fait un authentique vulgarisateur scientifique évangélique français à la fin du XIXe siècle. Dans ce livre de 352 pages, constitué au départ sur la base de brochures séparées qui ont ensuite été éditées dans le cadre d'un ouvrage relié, l'auteur se livre à une scrupuleuse mise en correspondance entre les connaissances scientifiques de son époque, qu'il expose, qu'il commente avec un grand souci de précision et de clarté pédagogique, et les réalités autres de la foi, et en l'occurrence de la foi évangélique, affirmée avec beaucoup de conviction par ailleurs par ce pasteur français. Alors, le premier aspect qui ressort de sa lecture, premier point, premier thème, c'est vraiment le respect attentif dont il témoigne à l'égard des nouveaux acquis scientifiques. Dès le premier chapitre, qui traite de l'existence de Dieu, sujet complexe pour un scientifique, et pas seulement pour un scientifique, il admet les acquis de la science géologique concernant la création. Les 7 jours de la création ne peuvent, à ses yeux, être compris qu'au sens de période. Et il le redira dans un autre ouvrage, d'ailleurs, dans Le Petit Voyage en Italie. Dieu a-t-il fait le monde en 6 jours ? Il dit la chose suivante. Notre créateur n'a pas plus achevé la création en 6 jours de 24 heures que la montagne du Vésuve n'a été amenée en 6 secondes ou 6 minutes à l'état où elle est avec ses anciens cratères et ses monceaux de lave. Tout en citant Pasteur, Charles Lévesque de l'Institut, mais aussi Fénelon, l'auteur poursuit sa réflexion, émaillée de nombreuses références bibliques, jusqu'au chapitre 2, intitulé « Le commencement et la fin du monde ». Le commencement et la fin du monde. Et il se livre là à une explication détaillée, étonnamment détaillée. C'est assez surprenant de voir le degré de détail dans lequel entre ce pasteur évangélique. Une explication donc des différentes théories de la formation de l'univers, qu'il essaye d'évaluer de manière nuancée. Et il critique, là encore, je cite, la prétention qu'il y aurait à dater la création de quelques milliers d'années. Tout en citant avec déférence Leibniz, Newton, Ampère, Pasteur, Laplace, page 27, il prend soin de se dissocier d'une interprétation, à ses yeux, abusive de la Bible, qui nierait l'évidence de certaines découvertes. Je le cite. En vous parlant de la Terre qui tourne, il convient de placer ici une objection que l'on entend souvent en faire et qui, selon nous, n'a pas la moindre valeur. C'est le reproche que l'on adresse à la Bible de dire que Josué arrêta le soleil. C'est vrai, Josué a dit au soleil « Arrête-toi », car il croyait, lui, que c'était réellement le grand flambeau du jour qui tournait. Mais la Bible ne dit nulle part que c'est le soleil qui tourne. Il n'a pas été arrêté, mais il a paru l'être. Il n'a pas été arrêté, il a paru l'être. L'auteur distingue ici une lecture biblique objectivante fautive qu'il réfute et une compréhension biblique éclairée par l'objectivité empirique des découvertes scientifiques. Et c'est en suivant cette ligne qu'il développe le 3e chapitre où il cherche à concilier avec la révélation biblique les découvertes des géologues. Il s'intéresse beaucoup à la géologie, découvertes qu'il expose avec beaucoup de précision, de prolixité. Il initie ses lecteurs évangéliques au Permien, au Trias, au Lias, au Carbonifère, mais aussi à l'Iguanodon, aux plantes zoophytes, aux terrains néocomiens, et j'en passe, et j'en passe. Et nous sommes en 1882. On est vraiment frappé par le nombre de ces lectures qui authentifient sa curiosité intellectuelle et son respect pour le savoir scientifique. Alors je dirais, deuxième point, toujours autour de cet ouvrage, que son approche apparaît à la fois, je viens de le dire, respectueuse vis-à-vis des acquis scientifiques, des nouveaux acquis scientifiques, et en même temps concordiste, dans son souci de concilier les nouvelles découvertes avec une lecture éclairée de la Bible. Mais quelle est la thèse de l'auteur ? Alors, en substance, on peut dire que ce pasteur évangélique s'efforce de montrer que les acquis nouveaux de la science géologique en particulier peuvent s'accorder avec l'idée d'une création par renouvellement. Donc c'est sa thèse, hein, une création par renouvellement. Les espèces ne se transformeraient pas vraiment, mais se renouvelleraient progressivement sous l'action du Créateur. Cette théorie le conduit, dans le quatrième chapitre, consacré aux origines de l'homme, à un refus clair, mais nuancé, du darwinisme et de Lamarck. Vous savez mieux que moi que dans la tradition française, l'évolutionnisme est plus rattaché à Lamarck, hein, qui est un peu le Darwin français, qu'à Darwin. L'homme ne descend pas du singe, selon Aimé Cadeau, qui s'appuie sur Cuvier, hein, son dictionnaire d'histoire naturelle. Il s'appuie sur Valmont de Beaumard, Haeckel, Monsieur de Quatrefages et des auteurs américains, hein, pour affirmer ce point de vue. Il refuse les nouvelles implications du darwinisme, mais on le sent un peu mal à l'aise. Il paraît néanmoins sensible à cette théorie. « La science n'est pas si sûre de son fait », écrit-il. Il la respecte et formule cette hypothèse, je le cite, « même si le darwinisme serait vrai ». Bon, il vaudrait peut-être mieux écrire « était vrai ». Enfin, bon, il écrit comme cela. « Même si le darwinisme serait vrai, il ne changerait rien à la nécessité absolue de l'existence de Dieu, sans lequel ni la matière ni la vie n'auraient pu commencer. » Donc même si le darwinisme était vrai. La porte est ici bel et bien entrouverte au nom de la science. Et encore une fois, nous sommes en 1882, hein, au moment où le darwinisme suscite des remous absolument considérables dans toutes les églises, à commencer par l'église catholique. La porte est entrouverte à la véracité possible de la théorie de Darwin. Encore une fois, dans un contexte où c'est tout sauf simple, hein, où la réception faite des idées de Darwin dans l'ensemble des églises est une réception plutôt glaciale, globalement, hein, à cette date en tout cas. Voilà qui mérite d'être souligné, même si l'auteur préfère suivre in fine une autre option que l'évolutionnisme, en ne perdant pas de vue son souci de convaincre l'incrédule. Et là, on rejoindra un des thèmes qui sera traité cet après-midi par Henri Blocher. L'évolutionnisme conduit-il ou non à l'athéisme ? À partir du chapitre 5 de l'ouvrage, consacré à l'inspiration des Écritures, on s'éloigne ensuite, avec Aimé Cadeau, des considérations scientifiques pour aborder des sujets explicitement en rapport avec la foi chrétienne, la divinité du Christ, l'âme, la prière, la condamnation, le salut. Mais l'auteur cherche néanmoins toujours à articuler les deux plans. Fort de la conviction suivante, je le cite, « La science définitive se trouvera d'accord avec la parole de Dieu », page 180. La science et la Bible s'intègrent dans un même système objectivé. La Bible bien comprise et l'élucidation scientifique de la nature que Aimé Cadeau compare dans un autre ouvrage, et je dirais c'est très classique, hein, c'est déjà la comparaison faite par nombre de romantiques, hein, il compare la nature à un grand livre, le grand livre de la nature, donc le livre de la révélation écrite, la Bible, et puis le grand livre de la révélation naturelle, hein, la création. Eh bien, la compréhension à la fois du texte biblique et de la nature s'accorde au service d'une vérité qui est une. Et tout au long de l'ouvrage, Aimé Cadeau s'attache à nourrir son propos de citations, de considérations scientifiques, hein, je l'ai déjà souligné, y compris sur des terrains où on ne l'attendrait pas, hein, comme la prière. Il cite notamment le savant professeur Lesley de Boston, un philosophe naturaliste Spencer, le philosophe astronome Charles Richard, etc., etc. Enfin, alors de tels développements, bien sûr, peuvent peuvent faire un peu sourire. Aimé Cadot n'était pas lui-même un scientifique, il n'était pas biologiste, il n'était pas géologue, il n'était pas physicien. Et il y a une sorte d'enthousiasme un peu à la Bouvard et Pécuchet, bon, qui peut faire un peu sourire. Mais au-delà des simplifications induites par cette culture d'autodidacte qui est celle d'Aimé Cadot, une évidente confiance dans la science s'affirme. Ça, je crois que c'est très, très, très significatif, hein, cette confiance dans la science, dans la perspective, encore une fois, d'un concordisme foncier, c'est-à-dire que foi et science pure ne peuvent pas être en conflit, dans le fond, et que les tensions et les interrogations qui peuvent se poser à tel ou tel moment, eh bien, Aimé Cadot a confiance que, dans un horizon plus ou moins lointain, eh bien, ces hiatus, ces points d'interrogation se résorberont. Une approche qui n'est pas sans rappeler, à une bien moindre échelle, il est vrai, les efforts considérables développés, notamment par les chrétiens sociaux du milieu de l'avant-garde, étudiés par Jean Bobéraud, hein, où il analyse aussi dans ses travaux, hein, Christianisme profane, dans ses travaux, la tension entre foi militante et science nouvelle, hein, le fait que les protestants et notamment les évangéliques à la fin du XIXe siècle sont extrêmement attentifs au progrès scientifique et s'attache à articuler science et foi. Alors dire que cette confiance dans la science a été partagée par tous les évangéliques français, là il y a un pas que je ne franchirai pas, hein, c'est une autre affaire. Mais force est de constater que les écrits de Cadot ne semblent pas avoir été vigoureusement contestés par ses contemporains, loin s'en faut. En tout cas par écrit, hein, et mon travail d'historien consiste à travailler sur les textes, et dans les textes, dans les imprimés de l'époque, on n'a pas le sentiment du tout que cet ouvrage ait fait scandale, hein, aucunement. C'est un texte qui a bénéficié d'une bonne diffusion dans les églises, qui n'a pas suscité de protestations publiques de tel ou tel. L'organe des églises baptistes, l'Écho de la vérité, a fait de la publicité pour l'ouvrage, ce qui montre que ce n'était pas perçu comme une initiative un petit peu freelance, hein, d'un pasteur, voilà, un peu original, mais non, on fait de la publicité pour l'ouvrage. On cite une critique favorable parue dans un journal protestant, le journal Signal, sous la plume du pasteur Jules Denis. Alors, en continuant à focaliser le regard sur l'exemple, qui est un exemple particulier, hein, l'exemple des baptistes, il est frappant que 40 ans après la publication de cet ouvrage d'Aimé Cadot, et donc nous basculons maintenant dans le XXe siècle, les questions de datation de la Terre, de l'évolution du vivant, ne suscitent toujours pas de réaction très exacerbée de la part de ses coreligionnaires. Lors des grands débats de 1920-1921 qui agitent le Landerneau-Baptiste à ce moment-là et qui vont conduire à une tripartition, hein, avec trois ensembles, la Fédération Baptiste, l'Association Baptiste et les Baptistes indépendants, représentés à l'époque par l'Église du Tabernacle, enfin, future Église du Tabernacle, eh bien la question générale des rapports entre science de la vie et foi chrétienne, ou des points particuliers comme celui de l'âge de la Terre, n'apparaissent pas en première ligne. C'est pas totalement absent, mais c'est absolument pas en première ligne des tensions, des discussions et des arguments qu'on se jette à la figure à ce moment-là entre frères et sœurs baptistes. Le consensus existe sur la foi en un créateur tout-puissant. En revanche, les manières de concevoir le processus créateur diffèrent et ne constituent pas des casus belli. On cherchera ensuite en vain dans les journaux baptistes des années 1920-1930 des articles dénonçant, par exemple, l'existence des aires géologiques, hein, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, un scientifique comme Jean Humbert, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, agrégé de sciences naturelles, neveu de Robert Dubarry, fondateur de l'Association Baptiste, ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud dans les années 30, pourra demeurer sans encombre dans l'association baptiste, y exercer des responsabilités, tout en développant une approche résolument hostile au créationnisme strict et littéraliste d'une terre créée en 6 jours de 24 heures. Cependant, le contexte évangélique général change durant cette période et les débats se durcissent quelque peu. Et c'est donc le deuxième temps de ce bref exposé. Le débat l'a relancé, puis recadré entre les années 50 et les années 80. Donc deuxième coup de projecteur, après la fin du 19e siècle, nous basculons dans les années 50, des années 50 aux années 80, pour voir un petit peu qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui change, pourquoi finalement ce débat retrouve une certaine vigueur, ou prend tout simplement une certaine vigueur qu'il n'avait pas nécessairement précédemment. Alors c'est sans doute à l'influence américaine, états-unienne en particulier, qu'il faut attribuer ce tournant. Pourtant, je commence par préciser qu'il faut rappeler que ce créationnisme strict et littéral, assimilable à ce qu'on appelle couramment le mouvement Jeune Terre, Young Earth, n'a pas été un trait dominant du premier fondamentalisme américain, contrairement à une idée reçue qui a la vie dure dans les médias encore aujourd'hui. Prenez l'un des principaux promoteurs, si ce n'est le principal promoteur de l'inhérence biblique, donc doctrine essentielle à la genèse du mouvement fondamentaliste, l'inhérence biblique, B.B. Warfield, par ailleurs principal du Princeton Seminary de 1887 à sa mort, donc un évangélique très orthodoxe, signataire des textes parus au sein des fameux Fundamentals, ces fascicules parus entre 1910 et 1915 qui vont constituer le soubassement doctrinal du premier fondamentalisme nord-américain. Eh bien, Warfield n'est pas créationniste strict. Il n'est pas créationniste strict, au sens en tout cas du mouvement Jeune Terre. À la suite de David Livingstone, qui a publié un article sur le sujet, l'historien américain Mark Knoll a souligné l'ouverture de Warfield aux nouvelles découvertes scientifiques. Warfield écrivait, cité par Mark Knoll, « La vraie question par rapport à la doctrine de l'évolution n'est pas de savoir si la vieille foi, c'est-à-dire la foi évangélique orthodoxe dans son esprit, donc la vraie question n'est pas de savoir si la vieille foi va survivre avec cette nouvelle doctrine, si elle peut vivre avec cette nouvelle doctrine. Nous pouvons être certains que la vieille foi sera capable non seulement de vivre avec, mais d'assimiler en son sein tous les faits. La seule vraie question, poursuit Warfield, donc la seule vraie question par rapport à la doctrine de l'évolution est de savoir si elle est vraie. » Fin de citation. Et Mark Knoll précise très opportunément que lorsque Warfield pose la question de savoir si la théorie de l'évolution est vraie, Warfield ne parle pas de vérité théologique, mais de vérité empirique, scientifique, factuellement vérifiable. On voit bien que ce type de position ne cadre pas avec l'hypothèse d'un créationnisme strict en guerre contre la vérité scientifique. Alors, Warfield allait du reste jusqu'à considérer, et ça j'ai découvert cela en lisant Henri Blocher, il allait jusqu'à considérer, je cite, que Calvin enseigne une doctrine d'évolution. Et au motif, souligne Henri Blocher, que les créatures procèdent de la masse confuse de Genèse 1 et 2. Et Henri Blocher précise entre parenthèses, ce n'est pas le sens de Calvin. Un de ses collègues, parmi l'équipe des rédacteurs des Fundamentals, le théologien James Orr, se situait sur une ligne tout à fait analogue à celle de Warfield. Le premier fondamentalisme n'est donc aucunement anti-darwinien, je dirais, dans son essence et dans son consensus. Mais on repère en revanche, à partir des années 1920, un durcissement qui va faire du créationnisme strict et littéral ou pseudo-littéral un trait caractéristique incontournable, presque un signe de ralliement, un marqueur identitaire, comme diraient les sociologues, des fondamentalistes nord-américains. Le très fameux procès du singe en 1925 à Dayton, dans le Tennessee, a médiatisé cette nouvelle orientation. Lors de ce procès, que se passe-t-il? Eh bien, un enseignant, Scopes, en l'occurrence, John Scopes, est condamné, en fin de compte, après moult péripéties, qui ont fait l'objet de multiples essais, de romans, même de films. Eh bien, Scopes est condamné à une forte amende pour avoir osé mentionner l'évolution darwinienne dans un cours donné dans une école publique du Tennessee. Alors, l'événement est hyper médiatisé, très grand retentissement. Les fondamentalistes se voient ridiculisés sur la place publique, même si, en fait, ils gagnent le procès, ils remportent une victoire juridique, mais ils perdent la victoire symbolique ou la victoire médiatique. Ils perdent le lien avec l'opinion, ils se trouvent ridiculisés dans les médias. Cependant, c'est à partir de ce tournant que le créationnisme strict va se renforcer dans leur rang. Va se retrouver de plus en plus défendu dans leur littérature interne et bientôt dans la rhétorique des missionnaires évangéliques partis outre-mer, notamment en Europe et en France. On peut faire l'hypothèse qu'à partir des années 50, au moment où une vague missionnaire significative venue des États-Unis, dans le fameux contexte de la guerre froide, où les états-majors missionnaires américains considèrent qu'il est, il est prioritaire de réévangéliser l'Europe, face aux monstres communistes athées qui menacent d'avaler tout cru les démocraties occidentales. Donc la clé pour ces états-majors missionnaires, c'est de rechristianiser l'Europe pour opposer une barrière spirituelle à l'athéisme communiste. Et donc il y a une vraie vague missionnaire nord-américaine qui vient vers la France. Et dans ce contexte-là, le créationnisme strict et anti-scientifique se voit réactivé, même si je m'empresse de rappeler que tous les missionnaires américains évangéliques qui arrivent en France à ce moment-là ne sont pas nécessairement créationnistes stricts. Il faut quand même le rappeler. Ce thème créationniste strict, jusque-là fort discret, devient peu à peu plus appuyé. Tandis qu'aux États-Unis, la Creation Research Society est fondée en 1963, suscitant à son tour un peu plus tard l'Institute for Creation Research. Le produit vulgarisé des réflexions engagées dans ces cercles militants arrive bientôt sur les étalages des diffuseurs français de littérature évangélique. Plusieurs films Moody, par exemple, donc produits par le Moody Bible Institute, qui produit dans l'après-guerre une quantité de films d'apologétique qui seront diffusés dans nombre d'églises. J'ai eu l'occasion d'en voir, d'ailleurs. Donc vont être projetés dans bien des églises durant la période des Trente Glorieuses. Et c'est dans ce contexte que deux ouvrages, publiés coup sur coup à la fin des années 80, vont recadrer le débat et veiller à dégonfler les prétentions des tenants d'une terre de 10 000 ans. Alors ces deux ouvrages, écrits par un théologien, Henri Blocher, et un agrégé de sciences naturelles, Jean Humbert, sont respectivement parus en 1988 et 1989. Le second, donc celui de Jean Humbert, constitue la réponse la plus directe aux créationnistes littéraux et que je qualifierais pour ma part d'anti-scientifique. Je pense que ce n'est pas seulement un créationnisme anti-scientiste, pour reprendre l'expression utilisée par Henri Blocher dans son ouvrage, dont nous parlerons dans un instant. Je pense que c'est plus qu'une critique du scientisme, c'est vraiment une contestation de l'approche scientifique par elle-même, qui s'exprime au travers de ses positions jeune terre. Alors, rien d'étonnant à ce que cet ouvrage de Jean Humbert constitue une réponse directe, dans la mesure où il est signé par un spécialiste, un professeur de sciences en classe préparatoire. Lui-même, par ailleurs, chrétien, évangélique, baptiste, convaincu, membre, je le disais tout à l'heure, d'une église rattachée à l'association baptiste, en l'occurrence membre ici même, de l'église installée ici même. Réseau d'églises qui, je le précise, n'est pas réputé pour son extrême libéralisme théologique. Ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, professeur agrégé donc de sciences naturelles au lycée Lacanale, Jean Humbert connaît son affaire. Il connaît son affaire. Au point d'avoir publié durant les années 60 plusieurs manuels scolaires pour l'enseignement public, pour l'école laïque, l'enseignement public, aux éditions Belin, dans le domaine de la zoologie, de la géologie et de la botanique, s'il vous plaît. Alors, l'ouvrage en question, donc cet ouvrage publié en 1989, fin de l'année, est préfacé par Henri Blocher et s'intitule « Création, évolution, faut-il trancher ?» Création, évolution, faut-il trancher ? Alors, contrairement à ce que ce type de titre implique souvent, c'est-à-dire qu'on s'attend à une réponse tranchée, l'auteur répond « Non, mais il n'est pas nécessaire de trancher. Il ne s'agit aucunement de trancher. Les deux approches pouvant parfaitement, d'après Jean Humbert, se concilier. » Alors, avant de développer sa thèse, Jean Humbert laisse la parole à son préfacier, et ce dernier exprime sa satisfaction devant la qualité et l'équilibre du livre, tout en formulant un constat et une inquiétude, propre à la fois aux chrétiens et aux scientifiques. Et je citerai donc Henri Blocher dans la préface qu'il a signée de l'ouvrage de Jean Humbert. La doctrine néo-créationniste s'est infiltrée récemment dans nos pays. Cela renvoie au contexte que j'évoquais tout à l'heure, dans les années 50. Donc, s'est infiltrée récemment dans nos pays et fait tache d'huile. Grâce au titre de certains de ses avocats et à leur talent de communicateur, leurs motivations sont fort belles, édifiantes pour qui les reconnaît, le respect de la révélation écrite, le refus du strabisme divergent qui afflige tant de croyants modernes devant les deux livres de Dieu, la Bible et l'univers. Mais il ne suffit pas que les motivations soient saines, les données sont-elles correctement perçues et jaugées ? Point d'interrogation. Alors, de concert avec son préfacier, Jean Humbert prend acte donc d'une montée en puissance de ce qu'il appelle le néo-créationnisme, ou ce qu'on pourrait appeler aussi créationnisme anti-scientifique, et s'interroge sur les méthodes qu'ils utilisent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de son argumentation, détaillée, précise, pédagogique, ferme, qui aboutit à une conclusion sans appel. D'après Jean Humbert, les néo-créationnistes ne sont pas de véritables scientifiques. Leur épistémologie, c'est-à-dire la manière dont ils construisent le savoir, n'est pas véritablement fondée sur l'approche scientifique, mais sur des approximations hasardeuses, basées sur un a priori qui dénie par avance toute validité aux acquis scientifiques de la biologie, de la géologie contemporaine. Alors voilà ce qu'il souligne en conclusion au sujet de la géologie. Page 173 de son ouvrage, je le cite. La nouvelle géologie n'est qu'un roman qui ne repose sur aucune bonne observation scientifique sur le terrain, aucune expérience, aucune recherche sérieuse de laboratoire. La méthode scientifique n'a pas été appliquée pour l'établir. Elle n'est qu'un emboîtement de suppositions. Pour tout scientifique, elle a la solidité d'un château de cartes. La synthèse néo-créationniste est extrêmement fragile. Il est abusif de la présenter comme scientifique. Ceux qui l'ont élaborée ne sont pas, à cet égard, des savants rigoureux. Leur dogmatisme, la rigidité de leurs convictions les égare, avec des conclusions qui précèdent la recherche des preuves. Fin de citation. Du point de vue de la rigueur scientifique, qui repose non pas sur des a priori, mais sur l'investigation empirique rationnelle et critique, où l'on doit accepter de se laisser surprendre par ce qu'on découvre, Jean Humbert ne laisse donc pas planer le doute. À ses yeux, les thèses du créationnisme jeune terre ne tiennent pas. À l'image de ce que pensait déjà, rappelons-nous, à la fin du XIXe siècle, son lointain prédécesseur, Aimé Cadot, qui lui non plus ne reconnaissait pas comme valide l'hypothèse d'une création en 6 jours de 24 heures. Mais Jean Humbert va plus loin qu'Aimé Cadot. Sur la base à la fois de son expertise scientifique professionnelle, que n'avait pas Aimé Cadot, qui était simplement pasteur, et sur la base, par ailleurs, de la progression des connaissances. Il souligne ainsi que l'évolution, comme mode de description de la complexification progressive du vivant, n'est pas une simple hypothèse. Et je renvoie à ce que disait tout à l'heure Pascal Touzet, c'est pas parce qu'on parle de théorie qu'il s'agit forcément d'une sorte d'hypothèse spéculative, sans grande robustesse intrinsèque. Je cite Jean Humbert, « L'évolution est une propriété générale du cosmos. » L'évolution est une propriété générale du cosmos. Et Jean Humbert de défendre, in fine, sa thèse centrale, celle, je cite, « du créationnisme progressif ». Et je le cite toujours, « L'évolution m'apparaît comme l'ensemble des modalités selon lesquelles le Créateur a accompli son œuvre. l'évolution m'apparaît comme l'ensemble des modalités selon lesquelles le Créateur a accompli son œuvre. » Fin de citation, page 214 de l'ouvrage. Voilà donc un livre substantiel de 289 pages au total, en comptant les annexes, écrit par un évangélique français convaincu, publié dans une maison d'édition à destination principalement du public évangélique, une maison d'édition évangélique et francophone, qui défend l'évolution, non pas comme une hypothèse plus ou moins détestable, mais comme, je cite, « une propriété générale du cosmos ». C'est bien là une thèse audacieuse, au regard des tenants d'un créationnisme jeune terre. Mais qu'en pensent les théologiens ? Qu'en pensent les théologiens ? Les défenseurs autorisés de la saine doctrine ? Pour le savoir, les lecteurs évangéliques de la fin des années 80 ont été fort gâtés, ils n'ont pas eu à attendre. Quelques mois avant la publication de l'ouvrage de Jean Humbert, paraissait une nouvelle édition de « Révélation des origines », livre signé par le théologien de référence de l'évangélisme francophone, il faut qu'il se cache, pour qu'il se bouche les oreilles, Henri Blocher, doyen de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, où il enseigne la dogmatique. Objet d'une minutieuse étude exégétique des chapitres 1 à 3 du livre de la Genèse, cet ouvrage propose aussi une analyse théologique fouillée, destinée non seulement au public évangélique, mais aussi destinée à nourrir le débat intellectuel et académique beaucoup plus large, au-delà des cercles spécifiquement évangéliques. Alors, rappelons que le livre avait connu une première édition en 1979, chez le même éditeur, donc les presses bibliques universitaires. Une édition d'ailleurs saluée par le public, au point que les 6000 exemplaires imprimés ont tous été vendus, ce qui a conduit à la réédition de 1988, réédition très attendue, qui comportait une surprise de taille. Une surprise de taille. L'appendice B présent dans la première édition disparaît, suite à un processus d'évolution que je n'entrerai pas dans les détails. L'appendice restant prend une ampleur péninsulaire, gratifié de développements très substantiels consacrés précisément au débat créationniste. Bien que l'ouvrage soit techniquement paru avant celui de Jean Humbert, il faut souligner l'influence de ce dernier, donc l'influence de Jean Humbert sur Henri Blocher, sur ce fameux appendice. Les deux auteurs ont correspondu, se sont rencontrés, ont discuté, ont échangé des documents, conduisant Henri Blocher à infléchir son évaluation du créationnisme jeune terre dans un sens probablement plus critique que son intention première d'auteur, avant ses échanges avec Jean Humbert. Et l'auteur reconnaît explicitement sa dette vis-à-vis de Jean Humbert, qu'il qualifie d'ami vénéré dans son avant-propos de la seconde édition. Il remercie par ailleurs Jean-Claude Boutinon, un ancien étudiant devenu théologien et professeur de sciences naturelles. Alors, quelles sont les options défendues par Henri Blocher dans ce fameux appendice ? Avec toute l'autorité que lui confère sa position, l'auteur soutient globalement, mais sur un mode plus nuancé, les positions défendues par Jean Humbert. Il affirme ainsi, je le cite, « Les données les plus diverses, indépendamment les unes des autres, attestent d'immenses durées. Les signes de jeunesse peuvent se ranger parmi les faits encore mal connus ou expliqués. Ils ne pèsent pas assez lourd pour contrebalancer les signes tellement plus nombreux de grand âge. » Fin de citation, page 219. Un peu plus loin, il reprend la distinction effectuée notamment par Jean Humbert, mais aussi par une majorité, rappelons-le, par une écrasante majorité de scientifiques, par ailleurs évangéliques, aux États-Unis, entre une approche scientifique unanime qui date les aires géologiques en centaines de millions d'années et une position qu'il qualifie d'anti-scientiste, fondée sur des a priori non recevables. Alors je le cite toujours, page 220, « Les anti-scientistes, mal aiguillés par une exégèse indûment littérale de Genèse 1, ont trop grossi les difficultés et négligé les appuis du consensus qui règne parmi les savants quant à la mesure des âges. Leur réduction par 1000 de la chronologie n'est pas recevable. » L'auteur va plus loin en plaidant, à l'image de Jean Imbert, pour l'hypothèse d'un processus créateur qui aurait recouru à la méthode de l'évolution. Il est inutile et futile, à ses yeux, d'opposer création et évolution comme si on se situait sur un continuum, sur un même plan. En réalité, observe-t-il, l'évolution pourrait fort bien constituer le procédé au travers duquel Dieu a créé le vivant, je le cite, « À coup sûr, c'est prendre un désastreux départ que brandir comme une alternative exclusive, évolution ou création, comme s'il s'agissait de concepts du même rang. Il faut avoir de l'action divine, une idée singulièrement étriquée, naïve, irréfléchie, pour exiger qu'elle s'en tienne à une seule procédure, sans quoi on refusera de la reconnaître créatrice. Pourquoi lui interdirait-on de faire de même dans une œuvre de création ? C'est-à-dire de créer par voie évolutive. Alors, en revanche, l'auteur n'est pas prêt à créditer l'évolution darwinienne d'un caractère d'évidence objective. Ça, il faut le souligner. Donc, il ne va pas aussi loin que Jean Imbert. L'évolution biologique reste pour lui une hypothèse, mais une hypothèse forte. Je le cite. L'évolution biologique, séparée bien entendu de certaines extrapolations philosophiques inadmissibles, reste une hypothèse, mais une hypothèse attrayante. Ça reste une hypothèse, mais une hypothèse attrayante. Le croyant attaché à la Bible n'a aucune raison de la rejeter a priori comme procédure de création, sinon, objection scientifique, que nul jusqu'ici n'a pu en montrer la pleine possibilité dans le réseau des lois connues. Les savants rationalistes ou positivistes, par répugnance pour le miracle de l'intervention divine directe, tendent à minimiser l'objection pour postuler un transformisme exclusif. Le croyant n'exclut ni l'un ni l'autre et peut attendre impartialement le fruit des recherches futures. Fin de citation. Alors, en définitive, les deux ouvrages de Henri Blocher et de Jean Imbert, fin des années 80, paraissent clôturer un cycle et fixer un paysage tout en nuances par lequel je terminerai brièvement. Donc un regard, si vous voulez, sur les 20 dernières années. Schématiquement, quatre sensibilités semblent pouvoir être dégagées. Les deux premières sont très majoritaires, elles s'accommodent assez bien de l'approche évolutionniste, sans pour autant nier la fonction créatrice de Dieu. Alors, pourquoi semble-t-elle largement majoritaire ? À vrai dire, on n'en est pas totalement certain. On n'a pas de données quantitatives qui permettent totalement de trancher le sujet. Il s'avère quand même que, notamment au travers des productions éditoriales, de toute évidence, les productions éditoriales en rapport avec le créationnisme jeune terre ne rencontre pas un succès prodigieux aujourd'hui auprès du public évangélique. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres thèmes qui suscitent l'achat. C'est un indicateur partiel, certes, mais c'est quand même un indicateur intéressant. Alors, globalement, les deux positions donc, qui semblent largement majoritaires sont celles d'un concordisme souple ou d'une approche cloisonnée. Alors, très rapidement, de quoi s'agit-il ? La première nuance, je dirais, se situe dans la filiation d'une approche manifestée par Aimé Cadeau, mise au goût du jour, naturellement. C'est-à-dire qu'on respecte la démarche scientifique dans sa logique propre, qui invite à aller aussi loin que possible dans l'admission des découvertes, notamment en matière de géologie, de transformation des espèces. La logique propre de la science, fondée sur la recherche, sur l'expérience, est reconnue et acceptée, mais sans remettre en cause, au moins en tant que postulat métaphysique, le canevas créationnel biblique, qui affirme sans ambiguïté le rôle décisif de l'acte créateur de Dieu. Alors ce concordisme peut aller de l'acceptation pure et simple de la biologie évolutionniste, comme c'est le cas du portail internet Science et Foi, que je vous invite à aller visiter, un portail très, très intéressant, à des approches plus critiques, proche, là, plutôt de l'intelligent design, dont je dirais un très bref mot pour finir. L'acceptation de la biologie évolutionniste se trouve aussi dans la seconde palette de nuances, donc deuxième approche, si vous voulez, que je qualifierais d'approche cloisonnée. Bon, faute de mieux, l'expression n'est pas formidable, mais enfin, j'ai pas trouvé mieux. Jean Imbert, lui, parle plutôt de schizophrénie intellectuelle, Bon, c'est un peu plus dynamique, oui, schizophrénie intellectuelle, dans son ouvrage, page 13. Alors, dans cette perspective, le chrétien, schématiquement, accepte en semaine, sans broncher, l'enseignement évolutionniste, la perspective évolutionniste, tout en acceptant le dimanche une approche créationniste, y compris très stricte. Mais le croyant va soigneusement cloisonner les espaces, hein, sans tenter véritablement d'unifier sa compréhension dans une articulation entre espace de la science et espace de la foi. Donc ça, ce sont les deux premières nuances de la palette, et maintenant deux autres qui sont minoritaires quant à elles, et qui se positionnent toutes deux sur une ligne plus critique, voire carrément hostile à l'évolutionnisme. La première pourrait être caractérisée de concordisme rigide. On ne rejette pas a priori toutes les positions scientifiques, mais on ne retient celles-ci que lorsqu'elles apparaissent coïncider étroitement avec la compréhension que l'on développe de la Bible. À l'inverse du concordisme qualifié de souple, un aspect essentiel de l'épistémologie scientifique est ici laissé pour compte, en l'occurrence le défi de la complexité, de l'incertitude, bon, je ne développe pas. La science n'est pas comprise dans sa logique propre, mais conçue comme un réservoir d'arguments dans lequel on ne puise qu'au cas où cela serve la démonstration préétablie. Une dernière nuance serait celle du créationnisme, que je qualifierais pour ma part d'antiscientifique, basé sur l'approche jeune terre, qui rejette l'épistémologie scientifique en dépit de ses revendications de scientificité. On s'appuie là sur des arguments d'autorité, a priori, une approche réductionniste de données mal interprétées, et interprétées par des non-spécialistes du champ. Alors les spécialistes peuvent fort bien être de bons scientifiques dans leur champ, mais ils parlent toujours d'un champ connexe au leur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas véritablement spécialistes du champ sur lequel ils se positionnent en tant que scientifiques créationnistes. Tout cela afin de défendre l'hypothèse d'une Terre de 10 000 ans environ, on n'est pas à quelques milliers d'années près, où les espèces auraient été créées dans leur état définitif. Une association créationniste stricte comme Au Commencement, qui dispose également d'un site internet intéressant à consulter, l'association Au Commencement, animée par André Hagen, se situe à la charnière de ces deux nuances. Ingénieur à l'INRA, André Hagen, par ailleurs militant créationniste engagé, notamment au moyen de conférences dans les églises évangéliques francophones, il a été pris à partie pour ses idées dans un livre grand public publié en 2008 aux éditions Sileps. Alors j'ai presque fini. Je terminerai simplement en posant l'hypothèse d'une certaine repolarisation du débat. Donc à partir de ce paysage divers, hein, ces quatre nuances que j'ai brossées très sommairement, on peut se demander si le débat n'est pas en train, depuis quelques années, de se repolariser un petit peu, de redevenir un peu plus sensible. Et j'y verrai trois causes. D'une part, l'essor de ce que j'appelle avec certains collègues le charismatisme troisième vague, donc une nouvelle vague charismatique qui s'est développée principalement à partir des années 80 et qui met particulièrement l'accent sur la guerre spirituelle, qui insiste aussi beaucoup sur le retour du territoire, hein, un réenchantement des lieux, et qui met aussi très fortement l'accent sur la théologie de la prospérité. Et ce charismatisme troisième vague semble recycler, hein, les vieilles thèses néo-créationnistes et en faire véritablement un cheval de bataille et un aliment au service de cette guerre spirituelle, hein, qui constitue une thématique très forte dans ces milieux néo-charismatiques qui sont minoritaires en France, mais que l'on peut néanmoins observer ici et là, que ce soit dans certaines assemblées ou sur la toile Internet. Donc ça, ce serait un premier facteur éventuel de repolarisation du débat au cours de ces dernières années. Deuxième facteur, me semble-t-il, de repolarisation, l'impact du mouvement de l'intelligent design. Je pense que d'autres en parleront infiniment mieux que moi, donc je ne vais pas me risquer dans des explications techniques largement hors de portée de mon ignorance. Simplement, dire que ce mouvement qui s'est affirmé aux États-Unis au milieu des années 90 a suscité un débat extrêmement passionnel, à la fois aux États-Unis et en Europe, et notamment en France, et donc recristallise des oppositions, redurcit, si vous voulez, des positions qui étaient précédemment peut-être plus soft et plus nuancées. Enfin, dernier facteur peut-être de polarisation, qui renvoie aux analyses de certains sociologues comme Jean-Paul Viem, qui parle d'ultra-modernité, c'est-à-dire d'une phase de la modernité depuis quelques années marquée par une critique des grands récits, une critique y compris des absolus scientifiques. On s'interroge aujourd'hui sur cette science qui finalement produit pourquoi pas une société Frankenstein, au travers de débats comme celui des OGM, celui de la vache folle. Il y a un discours critique vis-à-vis de la science, beaucoup plus net aujourd'hui peut-être qu'il y a 40 ou 50 ans, où là la confiance dans la science était sociétalement plus importante. Et du coup, dans ce contexte de critique de la science, eh bien, on assiste là aussi peut-être à une certaine résurgence d'approche de type créationniste strict. Alors, deux mots de conclusion. S'il fallait retenir une ligne directrice qui relie le XIXe siècle au XXIe siècle, c'est quand même celle d'une modération protestante évangélique française au sujet du créationnisme. Modération. Dans son immense majorité, le protestantisme évangélique francophone n'a jamais fait du créationnisme antiscientifique un article de foi, à la manière de certaines mouvances évangéliques états-uniennes. Des Mécado à Henri Blocher, le débat est resté assez feutré. Dans le souci de dépasser une fausse antinomie entre science et foi, avec le désir de respecter l'objectivité scientifique. L'ennemi n'apparaît donc pas comme la science. L'ennemi, c'est un scientisme matérialiste qui outrepasserait le domaine de la science, qui est celui du comment, hein, comment ça marche, comment expliquer, domaine de la science, qui outrepasserait cet espace-là pour tomber dans le domaine de la métaphysique qui s'interroge sur le pourquoi, sur le sens, la question du sens. Le frémissement d'essor du créationnisme antiscientifique depuis 15 ans, hein, cette repolarisation que j'évoquais tout à l'heure, remettra-t-il en cause cette modération évangélique française ? On manque de recul, naturellement, pour le dire, même si l'hypothèse paraît, a priori, peu probable. Dans tous les cas, il apparaît que les évangéliques français, au début du XXIe siècle, ne semblent pas prêts à s'entre-déchirer sur ces questions. À l'inverse de l'autorité de la Bible, de la centralité de l'événement rédempteur de la croix, de la nécessité de la conversion et de l'engagement, le rejet de l'évolution ne fait pas partie des invariants identitaires qui peuvent justifier un conflit ouvert, renvoyant à ce souhait confiant exprimé par Jean Humbert au terme de son ouvrage, et je terminerai donc en citant Jean Humbert. Biologiste et géologue, je suis contraint à ne pas admettre n'importe quoi. Mais tous les chrétiens ne se heurtent pas aux mêmes difficultés que moi. À chacun de choisir son explication évangélique de la création. Je respecte les convictions des autres. Je reconnais comme des frères les fidéistes, les concordistes, les néo-créationnistes. Je leur demande seulement de conserver une foi sincère, de garder l'amour de la vérité et de respecter ceux qui ne pensent pas comme eux. Merci.